toutes et à tous, auditeurs de Radio Galère 88.4, il est 9h, vous êtes dans Coup de Projecteur, l'émission, votre émission qui met la lumière sur un sujet d'actualité pendant une heure jusqu'à 10h. Je suis avec vous, je suis Marceau et c'est un plaisir de vous retrouver pour cette quatrième émission de Coup de Projecteur. Je suis avec Mohamed aussi. Mohamed, ça va? Ouais, c'est lui, vas-y Mohamed.
Oui, bonjour Marceau et... Voilà, bonjour à toutes et à tous de nous avoir écoutés ce matin, vous que nous écoutez, voilà, partout où vous êtes. Nous sommes bel et bien avec vous ici, présents ce matin pour cette nouvelle émission de Coup de Projecteur. Cette émission qui met la lumière sur vos sujets d'actualité. Marceau, bien heureux d'être avec vous ici ce matin.
Mais très heureux aussi Mohamed. On finira d'ailleurs l'émission par la chronique des sports de Mohamed. Mais avant tout, aujourd'hui, dans Coup de Projecteur, on met la lumière sur le sujet du jour. Et le sujet du jour, c'est la lutte contre le trafic de drogue. Après la visite du président de la République Emmanuel Macron mardi à Marseille, à la Castellane, pour une opération dite PlaceNet XXL, 5000 policiers déployés dans de nombreux quartiers de Marseille et des alentours pour lutter face au trafic de drogue. Dans Coup de Projecteur aujourd'hui sur Radio Galère, exclusivement, nous recevons Amine Kessassi pour une interview par téléphone. Et je rappelle que vous pouvez intervenir à tout moment dans l'émission au 04 91 08 28 10. Je répète, 04 91 08 28 10. On attend vos appels nombreux pour réagir à ce que dira Amine Kessassi sur ce sujet-là. Mais avant tout, on commence par l'essentiel de l'info dans Coup de Projecteur. Dans l'info du jour, à la une aujourd'hui, la disparition de Frédéric Mitterrand, mort à 76 ans d'un cancer qualifié d'agressif. Ministre de la Culture sous Nicolas Sarkozy de 2009 à 2012, il est surtout connu comme un homme de culture, un véritable cinéphile, passionné, propriétaire de plusieurs cinémas à Paris. Puis il arrive à la télé sur TF1, puis il deviendra un pilier du service public. Il a animé de nombreuses émissions comme Du côté... Chez Fred ou C'est votre vie. Pour des générations, c'est sa voix qui restera gravée dans son esprit avec son fameux bonsoir. Jean-Noël Guérini met fin à sa carrière politique. L'ancien patron des Bouches-du-Rhône et du PS local démissionne de son poste de sénateur après sa condamnation dans une affaire de marché truqué. Il a été condamné à 3 ans de prison, dont 18 mois ferme et 5 ans d'inéligibilité. Le parquet d'Aix-en-Provence dénonce une fraude d'une ampleur nationale à cause d'une arnaque au code de la route mise en place dans les Bouches-du-Rhône. 19 personnes interpellées, dont un gérant d'un centre d'examen ainsi que d'une auto-école du département. Le procès se déroulera le 12 avril au tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence. 1000 candidats ont eu leur code sans passer l'épreuve. En versant la somme entre 150 et 1000 euros, leur permis sera retiré. Et puis 5000 policiers déployés dans de nombreux quartiers de Marseille et des alentours toute la semaine pour lutter face au trafic de drogue. 149 personnes ont été interpellées depuis le début de la semaine. Des centaines de milliers d'euros et des armes ont été saisies. Une opération mise en place par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin qui était à la Castellane mardi avec le président de la République Emmanuel Macron ainsi que le ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti. Et dans Coup de Projecteur aujourd'hui sur Radio Galère 88.4, on reçoit Amine Kessassi par téléphone. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Amine Kessassi, c'est un jeune Marseillais de 20 ans, issu des quartiers nord, né à Frévalon, président et fondateur de l'association Conscience, dont il va vous parler dans cette émission. Amine Kessassi a aussi reçu le prix du jeune le plus engagé de France cette année. Amine Kessassi qui a été contacté par téléphone hier soir. Voici pour vous, auditeurs et auditrices de Radio Galère, les meilleurs moments de cette entretien téléphonique avec Amine Kessassi. Amine, tu as fondé l'association Conscience en 2020. Est-ce que tu peux revenir sur les bases de la fondation de cette association? Comment tout a commencé?
Conscience, il y a un peu plus de 4 ans maintenant. Enfin, il y a pratiquement 4 ans. Et donc l'objectif, c'était initialement de mêler l'écologie au quartier, de dire que l'écologie, c'était pas réservé qu'aux bobos. Et que nous aussi, les gens des quartiers, on était intéressés par l'écologie, notamment le cadre de vie dans nos cités, se dire que nous aussi, on a le droit de vivre dans la dignité. Et en fait, c'était surtout dédié au bac professionnel qu'on a monté l'asso, parce que moi, j'ai moi-même un bac pro, mais je le présenterai après. Et en gros, c'était pour dire que les élèves de bac pro, c'était pas ce qu'on pensait, c'était pas les cons des quartiers d'or qui n'avaient aucune perspective d'avenir et qui n'allaient rien faire de leur life. mais que bien au contraire, c'était des jeunes comme d'autres qui allaient apprendre différemment, mais qui allaient apprendre. Et que nous aussi, on était en capacité d'avoir des assos, d'être dans des conseils d'administration. Mais vraiment, le mot moi, qui m'a toujours porté, le mot d'ordre et le combat que je mène, c'est vraiment de dire stop ce syndrome de l'imposteur, parce que nous, les gens des quartiers, on a beaucoup ce syndrome de l'imposteur. On se dit beaucoup, mais pourquoi nous, on sera en capacité de faire et pas les autres? Mais c'est pas à notre place, c'est pas à nous de décider, c'est à eux de décider, etc. À un moment, moi, je pense que si on fait contre, si on fait sans les gens qui sont concernés, c'est qu'au final, on fait contre eux. Donc, du coup, moi, j'ai pas besoin que des blancs ou que des gens viennent parler à notre place ou qu'ils viennent réfléchir à notre place. On est aussi en capacité de le faire. Et donc, c'est un peu pour ça qu'on a créé l'asso. Aujourd'hui, on est présent dans plus de 37 villes de France. On a un peu plus de 3000 adhérents et on fait des colis alimentaires, on propose de l'aide au devoir, on propose des ateliers d'insertion professionnelle, on propose de faire de la lutte contre la délinquance et les homicides, notre sujet principal. Et pour ça, on est convaincu que si on veut lutter contre la drogue, contre les trafics, ben, il faut qu'on occupe les jeunes, il faut que les jeunes ils soient en sortant de l'école, enfin déjà il faut qu'ils soient à l'école, et puis en sortant de l'école il faut qu'ils aillent au théâtre, au cinéma, à la piscine, au sport, faire du basket, faire du foot, faire vraiment ce qu'ils veulent, et puis que les jeunes soient occupés, quoi, qu'il y ait vraiment une action sociale dans tous les quartiers, et surtout qu'il y ait une mixité sociale, c'est ce qu'on défend. Et donc du coup, pour lutter contre les trafics de stupes, on a notamment créé un dispositif d'accompagnement où on accompagne les mamans de victimes de la criminalité avec une psychologue, un avocat et une aide financière. Et donc, concrètement, comment ça se traduit? Dès qu'il y a un meurtre, on est prévenu dans la demi-heure qui suit, on se déplace, on va chez la famille. Parfois, on arrive même avant les flics. Et donc, du coup, on présente les condoléances à la maman et on se tient à ses côtés pendant 3 jours. Pendant 3 jours, on l'aide sur la veillée funèbre où la famille reçoit notamment du monde, de la famille, des proches, des gens qui viennent leur présenter les condoléances. Et donc, du coup, nous, on les aide à préparer le repas, on les aide à faire des courses, on les aide financièrement sur ça. Après, on les aide juridiquement avec l'avocate qui va les aider à faire un certificat de décès, à se porter partie civile, des choses que les familles ne savent pas forcément puisque ça leur tombe d'un coup. Et moi, quand ça m'est arrivé, ben, j'aurais aimé que quelqu'un me dise comment faire et ce dispositif n'existait pas. Et je reviendrai plus tard sur pourquoi je dis ça, parce que j'ai moi-même perdu un grand frère en décembre 2020. Et donc, du coup, après l'aide financière, il y a aussi du coup, une aide financière sur les frais de funérailles. Il y a aussi du coup, un soutien moral et psychologique qui se fait avec la psychologue de l'asso et avec des familles, en fait, des familles, des mamans qui ont déjà vécu ça, qui savent les mots qu'il faut employer, qui savent les mots qu'il ne faut pas employer, qui connaissent la douleur, en fait, qui, quand elles vont regarder d'autres mamans droit dans les yeux en leur disant bah, « je vous comprends », qu'elles comprennent réellement cette douleur. Et ça, c'est vrai que ça fait se sentir un peu moins seule. Et donc voilà, du coup, c'est un peu les grandes lignes de l'asso. Mais pour résumer, comme ça te fait une phrase simple avec mes mots, Conscience, c'est une asso de jeunes pour les jeunes, surtout des quartiers, et c'est surtout une asso pour expliquer que bah, les jeunes ils sont en capacité de réfléchir et de trouver des solutions par eux-mêmes.
Et il y a aussi un élément déclencheur, Amine, qui a fait que ton engagement avec cette association est monté en puissance. C'est la mort de ton frère dans un règlement de compte.
Plus tard, j'apprenais le décès de mon frère et du coup, j'ai décidé de faire une manifestation pour réclamer la justice et pour lui et pour ses amis, parce qu'il n'est pas mort seul, il est mort avec deux de ses amis. Et du coup, dès ce moment-là, je me suis dit, en fait, il n'y a rien qui existe, quoi. Je me suis retrouvé seul, ma femme s'est retrouvée seule, je me suis retrouvé moi à gérer le deuil de moi et de mes proches. Et donc, du coup, je me suis dit, non, là, il faut qu'on crée un dispositif, il faut qu'on crée un truc. Pour au final se dire plus jamais ça, quoi, plus jamais des familles qui sont seules. Donc dans ce deuil, dans cette douleur, moi j'en tire une force et un objectif de combat.
Et pourquoi avoir choisi le nom Conscience comme nom pour ton association, Amine?
Parce que en fait, il faut qu'on ait conscience que conscience, c'est vraiment avoir conscience d'un tas de sujets, se dire que on a conscience que sans justice sociale, il ne peut y avoir de combat pour l'écologie, pour l'environnement. Il faut avoir conscience que les jeunes sont en capacité de prendre des décisions, conscience que ces familles de victimes, elles sont responsables de rien et par conséquent, elles méritent d'être accompagnées comme toute autre victime de violence, consciente d'un tas de choses.
Et est-ce que parfois, dans ton engagement, tu ressens un sentiment d'impuissance, de ne pas pouvoir être partout?
Ah non, mais moi, c'est tout le temps que je me sens impuissant. Moi, j'ai envie qu'on fasse plus pour ces mamans. J'ai envie qu'on fasse 100 fois plus. J'ai envie qu'on accompagne 100 fois plus de jeunes. Donc, moi, c'est tout le temps que je me sens impuissant. Du moment où il y a un mort dans nos quartiers et qu'on doit aller avoir cette lourde tâche de présenter des condoléances à une maman, moi, je me sens impuissant face à elle, face à ses pleurs, face à cette colère. Même si je comprends, même si j'ai de l'empathie, même si je connais cette douleur, je connais cette souffrance, mais ça reste toujours un truc compliqué, quoi. On est toujours dans ce truc de on est impuissant, quoi. On est juste là à dire mes condoléances, on aurait aimé faire mieux, on aurait aimé faire plus, on aurait aimé sauver notre fils, mais on n'a pas pu parce qu'il n'y a pas de moyens, parce qu'on n'arrive pas à sortir beaucoup de jeunes de nos quartiers. Nous, on travaille beaucoup sur la formation et sur l'emploi. On essaye de faire partir les jeunes. C'est partez, allez bosser ailleurs, faites des choses. Et ça, c'est vrai qu'on a du mal parce qu'il n'y a pas beaucoup de moyens.
Et est-ce que ton association, elle intervient uniquement à Marseille ou tu l'as développée un peu dans toute la France ?
Donc du coup, ce dispositif, c'est un dispositif national que je porte dans 35 villes de France à travers nos responsables. Je ne le porte pas seul. Dans chaque ville, on a des responsables de ce sujet, des mamans qui ont elles-mêmes perdu des enfants. C'est beaucoup des mamans d'ailleurs, pas beaucoup des papas. Et donc oui, on accompagne bien évidemment toutes les familles de victimes de la criminalité partout en France.
Et quels sont les principaux besoins des familles que tu accompagnes après la perte d'un fils, d'un membre de la famille, dans les règlements de compte? Quels sont les principaux besoins de ces familles?
La principale demande qui est faite par les familles, c'est un accompagnement financier et surtout un accompagnement moral. Mais tout de suite après, c'est vraiment la même demande que toutes les familles formulent, c'est de les accompagner dans un relogement. En fait, on explique que les familles, elles ne peuvent pas vivre dans le même logement parce que du coup, elles sont endeuillées, parce que du coup, elles doivent faire leur deuil dignement. Et donc, du coup, il faut les reloger. Et pour ça, on a notamment écrit une charte du relogement qu'on a proposé aux bailleurs sociaux pour que eux puissent justement reloger ces familles endeuillées et leur proposer un accompagnement de relogement et qu'on considère réellement ces familles, quoi.
Dernière question, Amine. Avant-dernière, pardon. Avec ton association, tu as déposé une plainte avec les membres de l'association contre l'État en septembre 2023 pour inaction. Est-ce que tu peux revenir sur tes motivations qui t'ont poussé pour aller poser cette plainte ?
Ouais, c'était plutôt inaction parce que on nous annonce des choses, on n'en voit pas la couleur, on nous met de la poudre aux yeux, enfin, je veux dire, on parle beaucoup de ces questions-là et en fait, il n'y a rien qui change. Et en attendant, il y a quand même 49 morts en 2023. On est déjà à un mort là pour cette année, donc on ne peut pas continuer à juste compter les morts et à attendre.
Dernière question, Amine. Est-ce que pour toi, il est possible un jour de retrouver le contrôle dans ces quartiers sans que les dealers ne fassent la loi comme ils le font actuellement ? Est-ce que pour toi, c'est possible ou c'est impossible de retrouver le contrôle dans ces quartiers ?
C'est pas un truc qui est impossible parce que la police de proximité, ça existait déjà avant Nicolas Sarkozy. La police de proximité existait. Donc, les locaux de la police de proximité, ils existent encore, en pied d'immeuble, des commissariats qui étaient construits dans des quartiers. Donc, il faut juste les réquisitionner, les remobiliser, les remettre en état et mettre en œuvre ce projet. Et après, l'argent, il existait tout un temps. L'enveloppe, elle existait. Donc, on va aller repiocher ailleurs. On est fort pour faire des économies un peu à droite, à gauche et créer des dispositifs. Macron, il a réussi à débloquer 200 millions d'euros supplémentaires pour les armées. Donc, on est capable de débloquer un budget pour la police de proximité. Moi, je pense que le quoi qu'il en coûte qui a eu lieu pendant le confinement, on l'avait bien vu. Il a des entreprises, quoi qu'il en coûte. On va sauver des vies, quoi qu'il en coûte. On va sauver les gens des quartiers, quoi qu'il en coûte aussi.
Pardon, Yamine, est-ce que tu penses que le retour de la police de proximité dans les quartiers, c'est la solution pour mettre fin au trafic ?
Bien évidemment. Enfin,
allô, Amine, est-ce que tu penses que ça peut être la solution, du coup, le retour de la police de proximité dans les quartiers ?
Mais si on redonne,
parce que c'est vrai que c'est ce que tu évoques actuellement. On a peut-être perdu le contrôle avec Amine.
À l'époque, quand les jeunes, ils devaient commettre...
Alors attendez, on essaie de retrouver...
Allô ? Allô ?
Je sais pas, c'est dommage. On a perdu le contrôle avec Amine Kessassi, donc qui était en train de nous parler. Vous êtes bien en coup de projecteur sur Radio Galère. On va essayer de recontacter Amine Kessassi. Pendant ce temps-là, je vous propose une petite pause musicale avec France Gall. Il jouait du piano debout. On s'écoute ça tout de suite sur Radio Galère.
Ne dites pas que ce garçon était fou. sauve, c'est tout. Et pour quelles raisons étranges, les gens qui ne sont pas comme nous, ça nous dérange. Ne dites pas que ce garçon valait rien, il avait choisi un autre chemin. Et pour quelles raisons étranges, les gens qui pensent autrement, ça nous dérange. Ça nous dérange. Il jouait du piano debout. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'il était libre, heureux d'être là malgré tout. Il jouait du piano debout quand les trouillards sont à genoux et les soldats regardent à vous. Simplement sur ses deux pieds, il voulait être lui, vous comprenez. Étrange, les gens qui tiennent à leurs rêves, ça nous dérange. Lui, son piano, il pleurait quelquefois, mais c'est quand les autres n'étaient pas là. Et pour quelle raison bizarre, son image a marqué ma mémoire, ma mémoire. Il jouait du piano debout, c'est peut-être un détail pour vous.
Vous êtes bien sur Radio Galère 88.4, vous êtes dans Coup de Projecteur, l'émission qui met la lumière sur un sujet d'actualité. Et aujourd'hui, on était avec Amine Kessassi, fondateur de l'association Conscience, qui vient en aide aux familles, familles des victimes. Voilà, ces familles qui ont perdu un membre à la suite d'un narcomicide. Amine, il nous disait justement qu'avec son association, il les accompagne. Accompagnement moral, accompagnement pour le deuil, accompagnement financier, accompagnement juridique. Voilà, Amine qui a décidé de monter cette association à la suite du décès de son frère dans un règlement de compte. Et on était justement, Amine, j'étais en train de te questionner, on a retrouvé le contact avec Amine. Voilà, je te demandais s'il était possible pour toi de retrouver le contrôle dans les quartiers, ou est-ce que pour toi c'est impossible, c'est déjà perdu d'avance?
En fait, C'est pas un truc qui est impossible parce que la police de proximité, ça existait déjà avant Nicolas Sarkozy. La police de proximité existait. Donc, les locaux de la police de proximité, ils existent encore, remplis d'immeubles, des commissariats qui étaient construits dans des quartiers. Donc, il faut juste les réquisitionner, les remobiliser, les remettre en état et mettre en œuvre ce projet. Et après, l'argent, il existait tout un temps. L'enveloppe, elle existait. Donc, on va aller repiocher ailleurs. On est fort pour faire des économies un peu à droite, à gauche et créer des dispositifs. Macron, il a réussi à débloquer 200 millions d'euros supplémentaires pour les armées. Donc, on est capable de débloquer un budget pour la police de proximité. Moi, je pense que le quoi qu'il en coûte qui a eu lieu pendant le confinement, on l'avait bien vu. Hein. La petite entreprise, quoi qu'il en coûte, on va sauver des vies, quoi qu'il en coûte. On va sauver les gens des quartiers, quoi qu'il en coûte aussi.
Et tu penses, Amine, que la remise en place de la police de proximité, c'est la solution pour reprendre le contrôle dans nos quartiers? Tu penses que voilà, cette remise en place de la police de proximité...
Bien évidemment, au début, ça ne se verra pas dans les premiers mois, premières années peut-être, parce que c'est un travail de fond. Mais si on redonne la force de dissuasion à la police, les choses elles vont être différentes. À l'époque, quand les jeunes ils devaient commettre un truc et qu'ils voyaient des flics au loin, ils réfléchissaient deux fois avant de le faire. Aujourd'hui, on l'a bien vu à Félix Fiat, par exemple, où il y a encore un commissariat, mais qui ne sert à rien, parce que les flics, ils sont enfermés dedans et ils sortent jamais. Les jeunes, devant les flics, ils vendent de la drogue, ils dealent, ils sont prêts à tuer des gens devant les flics. Enfin, il faut qu'on redonne, en fait, de la force à la police. Et pour leur redonner de la force, il faut que la police, elle soit là, qu'elle soit présente, qu'elle soit sur le terrain, et que, bah, du coup, ils soient en capacité de dissuader les jeunes de commettre des délits ou des crimes, parce que, bah, du coup, la police, elle sera juste devant et qu'on va pouvoir redonner cette force de dissuasion. Après, c'est pas la solution majeure. Hein. C'est bien évidemment la première étape. Après, il faut une politique sociale, il faut désenclaver les quartiers, il faut faire en sorte que les jeunes ne restent plus matin, midi et soir dans les quartiers. Il faut pour ça qu'on remette des transports en commun, il faut qu'on redessine les cartes scolaires, qu'on permette, comme moi, à des jeunes d'aller... à l'école en dehors de leur quartier, d'aller en centre-ville, d'aller à la Timone, d'aller dans des quartiers un peu plus bobos. Moi, j'ai fait toute ma scolarité à la Timone, à la Caplette et au 5 Avenue. Donc, je n'ai jamais fait l'école dans le quartier, j'ai vu autre chose. Mon meilleur ami à moi, à l'école, il s'appelait Pablo. Ce n'est pas du tout des gens qui vivaient avec nous dans le quartier. Du coup, il faut vraiment qu'à un moment, qu'on comprenne qu'il faut faire un travail de fond. Il ne faut pas juste envoyer trois flics... la CRS 81 comme l'a fait Darmanin et dire ça y est, on va arrêter le problème de la drogue. C'est pas comme ça qu'on va faire le problème de la drogue.
Merci Amine Kessassi d'avoir répondu à nos questions. Voilà, Amine Kessassi qui était en interview téléphonique spécialement pour Radio Galère dans Coup de Projecteur. Et on est en train de parler justement de ces règlements de compte, de comment lutter face au trafic de drogue, justement avec la visite du président Macron à Marseille. N'hésitez pas à nous appeler hein, au 04 91 08 28 10. Je répète, 04 91 08 28 10 pour réagir à l'émission, pour venir donner votre avis, votre point de vue, si vous avez quelque chose à dire sur ce sujet. Donc voilà, opération Place Net XXL mise en place par le gouvernement français. Emmanuel Macron qui était à la Castellane ce mardi. C'est une opération qui est mise en place sur toute la semaine. On est vendredi, en fin de semaine. Quel est le bilan un petit peu de cette opération? Donc on l'a rappelé en début d'émission, 149 personnes ont été interpellées depuis le début de la semaine. Et si on rentre avec des chiffres un peu plus précis, il s'agirait aussi de 102 gardes à vue qui seraient en cours, 23,4 kg de cannabis qui auraient été saisis, 944 grammes de cocaïne, 404 000 euros saisis aussi, 13 véhicules, 5 armes et 19,2 kg de tabac et 50 cartouches de cigarettes aussi. Donc on voit que... Effectivement, les forces de l'ordre sont en place dans les quartiers, font des saisies. Mais la question qui revient sur la table, et c'est vrai que c'est toujours la même question, c'est dès qu'ils vont partir, ben, ça va recommencer. Les dealers vont reprendre leur place. Je voulais savoir, toi, Mohamed, qu'est-ce que tu en penses un peu de ça? Tu étais où hier? Ouais, tu es passé vers une cité, c'est ça, un quartier? Tu as vu beaucoup de policiers, ça?
Oui, parce que moi, j'habite dans le 14e, ouais. Au Merlin. Voilà, hier... On a vu beaucoup de policiers depuis d'abord la visite du président de la République Emmanuel Macron le mardi. On a vu beaucoup de policiers ici à Marseille. Franchement, c'est quelque chose quand même qui est exceptionnel parce que vous avez dit tout à l'heure, c'est quelque chose d'XXL que vient de mettre en place le gouvernement pour essayer au moins de stopper ces trafics de drogue. Parce qu'on voit aujourd'hui que Marseille est au cœur des grands trafics. et on voit tout ce qui se passe. Mais pour moi, aujourd'hui, c'est quelque chose. Est-ce que la question qui se pose, Marceau, est-ce que ça sera continuel ou s'ils vont partir, ça va commencer? Et aujourd'hui, ce qui fait de plus mal, les dealers font la loi dans les quartiers nord. Les dealers font la loi, ils imposent, ils sont en train de faire ce qu'ils veulent, au fait. Mm. Et on ne sait pas si c'est quelque chose qui sera continuel ou c'est, à un moment donné, c'est quelque chose qui va s'arrêter. Et voilà, aujourd'hui, Emmanuel Macron, après cette visite à Castellane, on voit vraiment ce travail qui sont en train d'effectuer, oui, les forces de l'ordre. Et aujourd'hui, avec ces interpellations, avec ces cannabis, ces cocaïnes, ces drogues saisies, et moi, je pense qu'aujourd'hui, pour le moment, les forces de l'ordre, ils sont en train de faire le boulot. Et est-ce que c'est quelque chose qui sera continuel ou pas? Parce qu'on peut voir aujourd'hui dans les règlements des comptes, il y a des gens qui arrivent à perdre la vie, comme le disait tout à l'heure Amine Kessassi, ouais, qui a perdu son frère. Et son frère, il n'était pas seul, il était avec l'un de ses amis. Et il y a des gens qui arrivent souvent dans ces règlements des comptes, qui perdent la vie, qui ne connaissent rien dans ces trafics de drogue. Et parce que si vous êtes à côté et qu'il y a un règlement des comptes qui tourne mal, je pense bien vous pouvez être victime. Et moi, aujourd'hui, si c'est quelque chose qui sera continuel ou pas, c'est la question qui se pose sur la table. Mm. Et voilà, Marceau, s'il y a quelque chose à dire, il faut dire que vraiment, vraiment, ça s'arrête, ça cesse. Au moins, essayer de contrôler la situation dans la cité phocéenne.
La solution, pour retrouver le contrôle dans nos quartiers, c'est la remise en place de la police de proximité. C'est ce que nous disait Amine Kessassi tout à l'heure sur les ondes de Radio Galère. N'hésitez pas à nous appeler au 04 91 08 28 10 pour donner votre avis, si vous êtes du même avis qu'Amine Kessassi ou si vous avez d'autres solutions envisageables pour retrouver l'ordre dans ces quartiers. Parce que voilà, comme tu dis, Mohamed, le problème, c'est qu'effectivement, ce trafic de drogue, ces dealers pourrissent la vie aussi des habitants dans ces quartiers. Oui. Les premières victimes aussi de ce trafic, c'est aussi les habitants qui y vivent quotidiennement. C'est ces mamans qui descendent des bâtiments et qui sont obligées de montrer quelle image à leurs enfants. Ils sont obligés de montrer des dealers. Moi, j'ai entendu le témoignage d'une maman qui témoignait et qui disait le gros problème, c'est que nos enfants sont tout le temps, voient tout le temps des choses qu'ils ne devraient pas voir. Est-ce que c'est normal quand on sort de l'école primaire, quand on sort du collège, de voir des trafiquants de drogue? Et aussi, Amine me l'a dit aussi lors de l'interview, au jour d'aujourd'hui, le trafic se trouve au portail des écoles. À la sortie des collèges, le trafic est là. Le trafic recrute à la sortie des collèges parce qu'il recrute des jeunes de plus en plus jeunes. Ouais. Dès 12 ans, dès 14 ans, ces jeunes sont pris en grippe pour venir travailler dans ce trafic. Et c'est pour ça qu'Amine insistait aussi sur le fait qu'il faut qu'on pousse ces jeunes de quartier à aller voir ce qui se passe aussi en dehors du quartier. Qu'on leur propose des sorties, des activités culturelles, qu'on les sorte du quartier pour qu'ils puissent voir autre chose et qu'ils ne se disent pas que leur vie, elle est scellée, ils sont condamnés à devoir rester dans le quartier.
Oui, parce que deux fois, les jeunes, ils ont peur. Un dealer qui te propose un marché, parce qu'aujourd'hui, ils sont recrutés dans les collèges, devant les écoles, et voilà, ils ont peur de leur vie. Et c'est qui est le plus encore, ce qui fait beaucoup, beaucoup plus mal dans cette histoire, Marceau. Aujourd'hui, on recrute les jeunes de 12 ans, de 14 ans, pour essayer de leur mettre dans ce trafic. Et il va grandir avec. C'est quelque chose, à un moment donné de sa vie, il va dire, j'ai plus envie de faire quelque chose. S'il y a quelque chose de mieux à faire pour gagner ma vie, pourquoi pas rester dedans? Et aujourd'hui, les mamans, je ne sais pas quel conseil elles ont à donner à leur fils. Il y a les petits-enfants, les enfants ou les petits-enfants qui voient comment ça se passe, ces trafics dans ces quartiers-là. Et aujourd'hui, ils peuvent dire, à un moment donné, il faut qu'on arrive à dire à nos enfants, stop, il ne faut pas arrêter de faire. Mais ces mamans, ils ont aussi peur de leur vie, parce qu'ils vivent dans ces quartiers-là. C'est quelque chose qui arrive, qui est quotidien. Voilà, vous voyez, Marceau. Et aujourd'hui, moi, je pense... que si ça sera quelque chose pour une continuité ou ça va prendre de très très longue durée. Et moi, je pense qu'il faut continuer cette lutte d'anti-drogue dans les quartiers de Marseille, et surtout pas de Marseille mais surtout dans toute la France. Il faut que ça s'arrête à un moment donné. Il faut qu'on essaye de mettre les points sur les i.
Ouais, je vous propose d'écouter un petit reportage réalisé par nos confrères de BFM qui étaient sur place lors de la visite d'Emmanuel Macron à la Castellane.
Dans les quartiers nord de Marseille, au lendemain d'une opération anti-drogue de grande ampleur, au cœur de la cité de la Castellane, la présence policière s'intensifie. Le président de la République arrive. Une visite surprise. Le maire de la ville, présent à sa gauche, n'aurait été mis au courant que 2 heures plus tôt seulement.
Tout va bien ? Tout se passe bien ?
Tout se passe parfaitement bien.
Très vite, le bilan des dernières heures lui est présenté.
Déjà, on a eu plusieurs assauts dès 10 heures du matin avec la CRS qui ont amené 3 découvertes sèches grâce aux chiens stupéfiants, à peu près 5 kilos de produits. Dans l'après-midi...
Et où ça, précisément ?
Ici, sur la Castellane.
Cette opération inédite de lutte contre le trafic de drogue à Marseille porte un nom, Place Net XXL. La police en a d'ailleurs fait elle-même cette vidéo clippée à des fins de communication.
Aujourd'hui, nous sommes au cœur des quartiers nord de Marseille et on vous emmène découvrir de façon inédite les coulisses d'une opération Place Net et l'organisation des trafics de stupéfiants au cœur des cités.
Une opération de communication menée également sur le terrain, car si le président de la République s'est déplacé pour l'occasion, c'est qu'il veut annoncer lui-même les premiers résultats.
Depuis hier, il y a déjà plus de 82 interpellations, une 60aine de gardes à vue, avec justement des personnes qui étaient visées, qui sont, on le sait, des criminels très dangereux et des gens qui nourrissaient la délinquance marseillaise. L'objectif, c'est rendre la vie des trafiquants, des dealers, de toute la criminalité qui les accompagne, impossible.
Vas-y, c'est Emma.
Emma.
Rendre la vie des dealers impossible et aller à la rencontre des habitants devant les caméras.
Bonjour madame, vous allez bien ?
Ça va ?
Vous allez bien ?
Pendant près de 2 heures, Emmanuel Macron multiplie les embrassades, les poignées de main,
c'est pas grave.
Et les selfies. À plusieurs reprises, le président de la République est interpellé par des habitants sur la guerre en Ukraine et la situation humanitaire dans la bande de Gaza.
Il faut faire quelque chose pour les Palestiniens. Au nom de Dieu, ne laissez pas ces enfants mourir.
Non, je sais.
Mais aussi sur la présence des dealers dans la cité.
Est-ce que vous avez quelque chose pour essayer de donner envie aux jeunes d'arrêter ces trafics?
Il ne faut pas se tromper, tous les jeunes qui sont attirés dans ces réseaux sont avant tout exploités. Et c'est le miroir aux allumettes. Ils croient qu'ils vont toucher de l'argent, mais ils sont d'abord les victimes eux-mêmes de gens qui se font vraiment de l'argent, qui sont eux cachés dans des paradis et qui les exploitent. Les menaces leur font courir des risques terribles.
Pourquoi les guetteurs ils vont arrêter de crier
Là, c'est ce que sont venus faire les policiers, c'est-à-dire justement les empêcher de faire ça et donc les arrêter.
Mais à chaque fois, ils partent et la police
ne
les retrouve jamais.
Alors là, ils en ont arrêté. C'est pour ça qu'on fait une opération massive.
Le président de la République en profite également pour adresser ses encouragements aux forces de l'ordre.
Vous allez bien ?
Et vous ?
Ouais.
Merci.
Merci du boulot fait, messieurs.
L'opération Place Net XXL doit durer plusieurs semaines dans différentes villes des Bouches-du-Rhône.
Voilà, on est revenu sur la visite d'Emmanuel Macron mardi à Marseille grâce à un très beau reportage de nos confrères de BFM Marseille. On se fait une petite pause musicale dans Coup de projecteur et puis on se retrouve juste après Give Me The Night par George Benson.
Starts to come alive until the day.
out to dance, 'cause there's music in the air and lots of loving everywhere. So give me the night. Give me the night.
Vous êtes dans Coup de Projecteur, vous êtes bien sur Radio Galère 88.4 et on va terminer cette émission, cette quatrième émission, voilà, où on a parlé du trafic de drogue, comment lutter face au trafic de drogue. On a reçu Amine Kessassi lors d'un entretien téléphonique très intéressant. On a écouté aussi un reportage lors de la visite d'Emmanuel Macron à la Castella. C'est pour terminer cette émission, comme d'habitude, on la termine avec la chronique des sports de Mohamed. Et Mohamed, pour commencer cette chronique aujourd'hui, on commence par la trêve internationale qui arrive à grands pas.
Oui, Marceau, comme on le disait tout à l'heure, pour voilà, toujours terminer cette émission de Coup de Projecteur, on s'adresse toujours à cette chronique sport. Et voilà, ce matin, nous allons essayer de parler de la trêve internationale qui arrive à grands pas. Et hier, jeudi soir, 12 sélections s'affrontaient dans les demi-finales des barrages de l'Euro 2024. La Pologne, le pays des Galles, ont fait le job et s'affronteront en finale alors que l'Ukraine a renversé la Bosnie-Herzégovine et devra maintenant sortir à l'Islande si la trêve internationale du mois de mars comportait bon nombre. Comportait bon nombre de matchs amicaux pour les sélections du côté de l'Europe. Il y avait encore des gros enjeux, Marceau, pour certaines équipes. 12 sélections jouaient en effet leur place pour l'Euro 2024 qui aura lieu cet été en Allemagne. Avec seulement 3 places qualificatives, les 12 formations devaient donc passer par les barrages d'abord des demi-finales, puis une finale pour jouer la qualification de l'Euro 2024 à partir de cet été en Allemagne. Et la Pologne de Robert Lewandowski qui n'a pas quand même su trouver les fonds du filet hier, mais la Pologne de Robert Lewandowski qui s'est imposé 5-0 face à l'Estonie. Et de l'autre côté, voilà, on avait vu la Finlande qui a réussi vraiment à qui a perdu son match hier face au Kazakhstan, voilà, pour le dire. Et l'Ukraine qui a renversé, voilà, comme on le disait tout à l'heure, la Bosnie. Et la Grèce de son côté a gagné son match 5-0 comme pressenti depuis plusieurs jours. Et tout à l'heure, nous disons la Ligue 1 professionnelle française de football.
Oui, la Ligue 1 qui change de nom, ce ne sera plus la Ligue 1 Uber Eats, c'est ça, Mohamed?
Oui, ça sera plus la Ligue 1 Uber Eats comme pressenti depuis plusieurs semaines. La Ligue française professionnelle a trouvé un accord avec McDonald's pour devenir le nouveau partenaire à titre de la Ligue 1 à compter de la saison prochaine. L'enseigne des fast-food remplacera pour 3 saisons Uber Eats. La Ligue 1 reste dans la nourriture, mais change de partenaire à Marceau. Oui. Après plusieurs années avoir la dénomination du championnat de France être rattachée à l'Uber Eats, la LFP a trouvé un nouveau partenaire pour les 3 prochaines saisons. Exit le service de livraison en place. Et McDonald's, dans un communiqué publié ce jeudi, Vincent Labrune a officialisé la nouvelle qui était dans les tuyaux depuis plusieurs semaines. Et voilà, à l'heure où nous vous parlons, l'engouement pour la Ligue 1 n'a jamais été aussi fort, avec notamment des affluences records dans les stades. Accueillir une enseigne internationale comme McDonald's dans la maison du football professionnel français constitue un signal très très fort à l'attractive de la Ligue 1, a déclaré le président de la LFP.
Ben McDonald's, pour des joueurs de foot professionnels, c'est pas non plus le sponsor auquel on pense en premier. Hein.
Oui.
Je sais pas si les joueurs vont souvent au McDo. Bon, les supporters, ils iront peut-être plus. Mais les joueurs, j'espère pour eux qu'ils y vont pas. En tout cas.
Même si les joueurs, ils n'y vont pas, mais les supporters quand même.
Les supporters vont être très contents. Demain, le match de l'équipe de France face à l'Allemagne à Lyon.
Demain, nous avons l'équipe de France qui affrontera la Mannschaft allemande de Julian Nagelsmann. Cette rencontre sera l'occasion pour les Bleus de prendre une revanche contre l'Allemagne après leur défaite concédée en septembre dernier déjà en match amical à Dortmund. 2-1, l'équipe de France avait perdu et la Mannschaft est la seule équipe à avoir battu les hommes de Didier Deschamps depuis la finale de la Coupe du Monde 2022 perdue au Qatar contre l'Argentine. Cette confrontation entre les deux pays sera la 34e de l'histoire, avec un bilan favorable à la France avec 15 victoires contre 10 pour l'Allemagne et 8 matchs nuls. L'équipe de France a conclu, Marceau, une campagne de qualification à l'Euro 2024 presque parfaite, avec cette victoire contre un match nul concédé lors du dernier match en Grèce en novembre dernier, le tout en inscrivant 29 buts. Seul ombre au tableau, la défaite concédée face à ces Allemands en septembre dernier en match amical à Dortmund, 2-1 pour les Allemands. De son côté, l'Allemagne a traversé une période compliquée à quelques mois seulement de l'Euro 2024 à domicile. Et ce match entre la France et l'Allemagne qui sera diffusé demain en intégralité à partir de 21h sur TF1. Et Marceau, ça sera un match quand même assez tendu, même si on voit entre la France et l'Allemagne, parce que certes, ça sera pour cette cette équipe de France de prendre la revanche pour le match perdu à Dortmund en septembre dernier, voilà, 2-1. Et voilà, ça sera à partir de 21h demain, Groupama Stadium, ce match qui se passera à l'OL, voilà, au Parc OL, au Groupama Stadium.
Le décalage des matchs de la 29e journée de Ligue 1, calendrier perturbé, c'est ça Mohamed ?
Oui, la LFP annonce le décalage exceptionnel des matchs de Paris, Marseille et Lille lors de la 29e journée encore engagée en Coupe d'Europe. Les trois clubs se sont vus proposer une réprogrammation de leur rencontre de la 29e journée de Ligue 1 dans le but de préparer au mieux leur quart de finale, parce que nous voyons que cette année... la France qui aura trois représentants en Coupe, en Coupe d'Europe 20 ans après Monaco, Bordeaux et Marseille, la France retrouve enfin trois représentants en quart de finale de la Coupe d'Europe. Face à cette situation historique, la LFP a décidé ce jeudi 21 mars de modifier la programmation de la 29e journée de Ligue 1 qui procédera à les quarts de finale aller, là où les six autres matchs de Ligue 1 se tiendront le week-end du 13-14 avril. Les rencontres entre Lorient et Paris ainsi que Monaco et Lille se dérouleront le mercredi 24 avril à 19h, 2 heures avant le match entre Marseille et Nice. Voilà, le parcours des clubs français en Coupe d'Europe, on peut le voir, est une priorité absolue. Tous les points marqués sont fondamentaux pour le coefficient UEFA de la France. Le football constitue un fleuron national, comme nous le voyons déjà Marceau. Et à travers les performances des clubs au niveau européen, il permet de faire rayonner la France à l'international, à justifier la Ligue française professionnelle via voilà, le site, pour essayer de donner un peu plus de temps aux clubs français qui se retrouvent déjà en ces quarts de finale de Coupe d'Europe, pour essayer de leur donner plus de temps de se préparer. Et les trois clubs concernés pourront ainsi bénéficier de 2 jours pour préparer leur quart de finale européen. Paris affrontera le FC Barcelone en match aller, voilà, de la Champions League, et ensuite Marseille sera opposé à Benfica. Et voilà, un adversaire
de taille
pour l'Olympique de Marseille. Et le Lox Lille défiera l'Aston Villa. Voilà. Donc ça, c'est des matchs quand même qui seront très très costauds pour ces trois formations, voilà, pour ces trois clubs de la Ligue 1.
Le classement des plus gros salaires de Ligue 1 qui est tombé, c'est ça, on a des salaires quand même fous en Ligue 1.
Oui, les salaires fous de la Ligue 1, comme vous le voyez déjà, les salaires sont tombés, Marceau. Et c'est pour vous dire encore que la Ligue 1 paye mieux les joueurs aussi, parce que Kylian Mbappé, le Parisien, qui occupe la première place de ce classement avec 6 millions bruts par mois, et Ousmane Dembélé, le Parisien aussi, qui occupe la deuxième place avec... 120 000 euros par mois, et Marquinhos. Et nous avons aussi nos Olympiens, Marceau, parce que Pierre-Emerick Aubameyang qui occupe la 11e place de ce classement avec 650 000 euros. Et voilà, aussi nous avons Gianfranco Condobia, 450 000 euros, et Jordan Veretout, la même somme. Joaquin Correa, la même somme. Et voilà, c'est pour dire que Ismail Assar qui occupe la 28e place de ce classement de salaire en Ligue 1 avec 390 000 euros. Voilà, Marceau, les salaires les sommes voilà, qui sont déjà connues pour les joueurs de la Ligue 1.
Ben, c'est des sommes qui font tourner la tête, hein, Mohamed.
Ouais.
Un petit mot de l'OM qui a connu sa première défaite en championnat sous l'air gassé, 2-0 à Rennes le 17 mars. Est-ce que les Marseillais vont réussir à bien préparer leur match face au PSG ?
Et la première, c'était face au Villarreal. Oui, et après 5 victoires, Marseille a été battu par le Villarreal en Ligue Europa au stade de la Ceramica. Voilà, c'était un match fou, mais grâce à ce but libérateur de Jonathan Clauss à la toute dernière minute de cette rencontre, qui a donné vie à l'Olympique de Marseille dans cette rencontre sur cette passe de Pierre-Emerick Aubameyang. Et on peut dire voilà, que Jean-Louis Gasset, c'était l'une des premières alertes, voilà, et la preuve que l'Olympique de Marseille n'est pas encore totalement guéri, parce qu'on avait vu que l'Olympique de Marseille qui a perdu ce match 2-0 au Rosen Park face au Stade de Rennes. Et voilà, après avoir enchaîné 5 succès en Ligue AC et ses hommes ont chuté en Espagne, voilà, et ensuite en championnat face au Stade de Rennes, Marseille est encore convalescent. Marceau et l'entraîneur intérimaire arrivé au chevet du club olympien le 20 février dernier reste lucide sur le nouveau de son équipe. Marseille est encore convalescent au niveau de la maîtrise technique, au niveau de la maîtrise de l'événement après une expérience ratée à la tête, comme on l'a si bien dit au tout début de cette émission de coup de projecteur, Jean-Louis Gasset qui avait raté à la tête de la sélection des éléphants de la Côte d'Ivoire. L'entraîneur âgé de 70 ans, ancien adjoint de Laurent Blanc en équipe de France et au Paris Saint-Germain, a relancé l'OM. Voilà, pour essayer de très très bien rester dans cette Coupe d'Europe et pourquoi pas d'aller chercher une place la saison prochaine dans ce championnat et aller chercher une place la saison prochaine en Coupe d'Europe.
Et on termine cette chronique, Mohamed, avec un mot sur Paul Pogba, qu'on ne risque pas de revoir sur les terrains de foot, malheureusement.
Oui, Paul Pogba testé positif à la testostérone. Le milieu de terrain français de la Juventus de Turin, Paul Pogba, suspendu 4 ans à la suite d'un contrôle antidopage positif en août dernier et a été condamné à 4 ans de suspension par le tribunal antidopage italien annoncé le jeudi 29 février dernier. Son club, la Juventus de Turin, donc ça peut être ce coup de massure pour le milieu de terrain français de la Juventus de Turin, voilà, après 4 années qu'un grand joueur, un talent aussi, ça sera d'énorme gâchis, non seulement pour cette équipe de France, mais pour le football italien et pour ce championnat, parce que la Juventus de Turin, avoir un joueur comme Paul Pogba avec de longs jambé, avec tous ces grands talents, Marceau, Paul Pogba qui devra dire au revoir 4 ans sans venir sur le rectangle vert.
Et oui, 4 ans, c'est long, c'est très long, surtout que quel âge il a là, Paul Pogba
Et Paul Pogba, il a maintenant
je vais checker 30, ça.
32 ans, je crois.
Ou 31, ouais, 31, c'est ça. Ans, donc voilà. 4 ans, ça fait 35 ans, c'est fin de carrière. Hein.
Ça, on peut dire ça sera la fin de carrière pour Paul Pogba pour revenir sur les terrains encore, d'essayer de dire. Mais après tout ça, en conférence de presse cette semaine, l'ancien coéquipier de Paul Pogba, parce que Paul Pogba qui est écarté du groupe de la Juventus de Turin, de cette équipe de France, parce qu'on avait vu après cette blessure et ce problème qu'il a eu, ces conflits qu'il n'a pas pu gérer avec le clan Pogba, avec ses frères, qui a raté sa non-convocation pour la Coupe du Monde au Qatar avec l'équipe de France de Didier Deschamps et Adrien Rabiot, qui s'est confié, qui a trouvé cette sanction comme de mesurer, c'est dommage ce qui se passe. On est en contact, on se parle régulièrement. Il était à Turin ces derniers temps. Je sais qu'il attendait des motivations exactes de sa suspension pour faire appel. J'espère que la sanction sera réduite. 4 ans, c'est une sanction démesurée. J'espère qu'elle sera réduite, a déclaré Adrien Rabiot en conférence de presse lors du rassemblement des Bleus avant le match amical contre l'Allemagne demain soir au Groupama Stadium et le match du 26 mars ici même à Marseille, à Marceau. Voilà.
Merci Mohamed pour cette chronique des sports. C'était une chronique très intéressante aujourd'hui. Merci Mohamed.
Et voilà. Merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés. Voilà. C'était très très bien quand même de passer ces infos et d'être ici présent ce matin à la Radio Galère. Merci à vous aussi à Marceau.
Et oui, merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés pour cette 4e émission de Coup de Projecteur. Et on se donne rendez-vous le 12 avril pour une 5e émission. Merci à tous, une très très bonne journée à vous sur les antennes de Radio Galère 88.4. Tout de suite, la reprise de vos programmes. Did you coffee,